Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comic Speak, l'émission qui régale avec toujours une sélection aux petits oignons, avec une équipe de génies. Salut Belmung.
Salut Baptiste, salut Nightwing et salut les chers auditeurs.
Et salut Nightwing.
Salut Baptiste, salut Belmung, une équipe de génies.
Aujourd'hui, émission particulière, parce avec un comics particulier. Comme je disais tout à l'heure là en off, The Max, c'est un comics que j'ai tenté de lire à plusieurs reprises, que j'ai tenté de regarder, parce qu'on a une série animée de MTV des années 90 qui est super dure à trouver aujourd'hui. Et donc là, j'ai dû le lire pour la quatrième fois, et je pense que ça y est, je pense que je commence
tu as
à
compris.
Comprendre. Non, je commence à comprendre de The Max. C'est une œuvre vraiment technique. Nightwing, là, a fait une découverte. On entendra son avis tout à l'heure et je pense qu'on sera pas déçus. Mais je sais ce que ça fait, Nightwing. Ne t'inquiète pas.
mais moi, j'ai eu la même chose. Hein. C'est notamment Watchmen. Je l'ai revu plusieurs fois et c'est bon, maintenant j'ai compris. Il avait raison, Rorschach, c'est lui le vrai héros, c'est lui le vrai héros américain, et je pense d'ailleurs que je vais faire ma personnalité autour de ce personnage.
Bien, 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 tu seras donc quelqu'un de détestable, et mais donc voilà, on va parler aujourd'hui de The Max. C'est une série, on va dire, je pense qu'on peut dire culte des années 90, ce qui a émergé, j'ai envie de dire également de plus intéressant de chez Image Comics parmi les premières vagues de séries, et on va en parler. Belmung va nous présenter les créateurs, même si au final il n'y a vraiment que Sam Case qui est derrière le projet et que William Lopes n'est finalement que le dialoguiste et ami de Sam Case pour la création. Mais voilà, tu vas nous présenter ces deux personnes-là et je m'imagine que tu vas commencer par le plus important.
Bah, Sam Case, oui, qui voilà. A actuellement 61 ans, il fait quand même un certain âge, qui est connu en tant que scénariste et dessinateur, qui a pas commencé sa carrière, on va dire, en tant qu'aucun des deux, c'est-à-dire qu'au tout début, il a commencé en 84 pour Matt Wagner, en tant qu'encreur sur la série Mage, qu'on n'a jamais eu en France, je crois.
Non, qui porte, non c'est encore inédit.
Voilà, qui est l'une des plus grosses séries de Matt Wagner, ce qui est un peu dommage. Mais il a commencé à dessiner en 89 sur une série qui s'appelle Sandman. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de cette série ?
Non. non, c'est quoi ?
Je sais pas, un truc avec un certain Neil Gaiman. Je sais plus, je sais pas si je le dis bien, bon, bref.
Par contre, il avait déjà dessiné chez Comico auparavant.
Oui, après, il a fait d'autres... Alors, pour le coup, je sais pas ce qui... pour Comico, ça, je sais pas du tout. Pour moi, ce que je vois, c'est ça. Je vois aussi que, dans la même période, il a dessiné une mini-série Alien, hein, qu'il avait aussi fait ses armes au tout début chez DC sur une story origin de Pingouin avec Alan Grant, et qu'il avait aussi, par la même occasion, dessiné un numéro de Hulk, c'est-à-dire que, bon, le mec, quand il commence à dessiner, il commence fort, il dessine chez tout le monde en même temps, à peu près. Bon, il continue un peu sur ça, et sur toutes ces séries-là, et en 93, il décide justement de quitter Marvel, c'est-à-dire 4 ans après, pour dessiner The Max chez Image au tout début, et j'y reviendrai l'histoire éditoriale de The Max. En 95, c'est bien de rappeler aussi, mais ça j'en parlerai toujours avec The Max, c'est que cette série dont nous allons vous parler aujourd'hui a une particularité, c'est qu'elle a été adaptée en animation. Alors c'était des shorts, des épisodes courts qui passaient sur MTV. En 2001, on va aussi le voir sur une autre série qui s'appelle Zero Girl, qui était chez DC Wildstorm, qui est une mini-série en deux, qui reprendra par la suite, je crois, avec un TP. Moi, ce que je connais aussi, c'est une autre de ses séries à lui. Alors, pardon, une autre de ses séries à lui, toujours. Là, pour le coup, c'était en 2003. C'était une série qui s'appelle, enfin, c'est un tome one shot, on va dire, qui s'appelle For Woman, qui est une série qui est très particulière. Je vous invite à la lire. Elle m'intrigue beaucoup. En tout cas, c'est une série qui, grosso modo, parle de trois femmes qui se retrouvent bloquées dans une bagnole. je crois au-dessus d'un précipice, si je me rappelle plus. Et grosso modo, elles sont bloquées là et elles vont devoir survivre entre elles dans cette bagnole pendant toute la période du comics. Et grosso modo, il va y avoir de gros problèmes qui vont se passer entre ces quatre femmes. Très particulier. Moi, ce que je connais aussi, c'est que, pardon, un an avant, il revient quand même chez Marvel parce qu'il est pas trop rancunier et il va dessiner une série, dessiner et scénariser une série qui s'appelle Wolverine Hulk, qui est une série qui est vraiment très sympa. Je vous la conseille, qui est assez particulière. Alors, déjà, si vous connaissez le style de Sam Kiet, voilà, c'est assez particulier. Déjà, regardez un peu son style avant de prendre ça parce que c'est pas non plus n'importe quoi. Et où ça va tourner autour d'une fille qui, grosso modo, une fille fantôme qui va chercher un peu, enfin voilà, qui va essayer de mettre les deux personnages entre, enfin qui va pas essayer de mettre les deux personnages entre eux, mais qui va essayer de chercher de l'aide entre les deux personnages. Sauf que, bon, bien évidemment, ils peuvent pas se blairer, donc il va y avoir une espèce de combat qui se passe entre les deux. On va le voir. Oui.
Non, pardon. C'est qu'en fait, je sais pas si tu fais un lien entre toutes ces créations tout de suite ou si tu ferais un lien plus tard.
Alors non, pas forcément. Enfin après, pour moi, c'est plus quand je vais revenir sur The Max. Mais okay. Si tu veux, après, bon.
En gros, tout ce qu'on pourrait dire là déjà, c'est que quand on parle de ces séries qu'il va faire après The Max, en fait, il va avoir tendance à répéter la même chose. Donc, quand on vous parlera de The Max là, on va retrouver, par exemple, là, tu parlais de Zero Girl, de Four Women. C'est des séries que j'ai pas lues, mais que je me suis renseigné un peu, et en fait, c'est des thématiques qui se ressemblent énormément. Quand on parle de personnages féminins, à côté de ça, quand il va faire des personnages un peu plus massifs, que ce soit des créations originales chez DC avec Scratch, ou alors quand il va faire du Batman Lobo chez DC,
voilà, c'est ça.
Ça va être souvent la même chose.
Même du Lobo par la suite, notamment en 2009, Lobo, juste après, la mini-série entre Batman et Lobo, donc qu'il aura dessiné, oui, c'est ça. Aussi, en 2010, pardon, il va faire un petit peu de Batman, mais surtout, ce qui est notable, c'est son Arkham Asylum Madness, que je n'ai pas lu, que je ne connaissais pas, et qu'il faut que je lise, parce que notamment, ben, apparemment, il était très très bien classé, je crois que l'année où c'est sorti, en 2010, ça a été classé dans le New York Times comme le cinquième meilleur titre sorti cette année-là. Donc, voilà, ça me donne envie, je connaissais pas. Et j'ai pas grand chose à raconter dessus parce que c'est pas en fait c'est un ce que je comprends c'est un, ça me quiète en fait c'est pas que un comic book artiste, c'est aussi un créateur à côté qui notamment pour donner une idée ce que je comprends c'est qu'il a il bosse un petit peu dans de l'animation et notamment si vous connaissez alors des gens qui regardaient Cartoon Network il y a près de 20 ans je crois si vous connaissez Chloé et Chico qui est une série que j'adorais à l'époque avec je pense que j'ai parlé tout seul mais le cul de porc épuré et le diable qui se balade à cloche-fesse, voilà, si ça rappelle des gens, merci de me envoyer un message pour me dire, moi aussi j'ai regardé ce truc de merde à l'époque, c'est très sympa, c'est une super série, hein, mais elle est vraiment très marrante, et après, bon, il travaille aussi, il a travaillé d'ailleurs sur un film qui s'appelle Take It to the Limit, dans les années 2000, et bon, bref, voilà, et grosso modo, par la suite, si, il va continuer à faire un peu de comics, mais beaucoup moins. Ce qu'il y a à noter, c'est que, par exemple, il va revenir notamment sur sa série The Max, bon, un crossover The Max Batman. Alors, j'ai plus l'année, je pense que ça doit être peut-être un peu avant 2020. Et la série, bon, si elle n'est pas éditée en France, c'est pas une perte, c'est un peu un hommage à son personnage, mais on aurait pu s'en passer, je pense. Donc voilà. Maintenant, je vais passer sur William Messner Loebs, qui a 75 ans. Alors lui, ça va être plus court. Enfin, ça va être plus court. Non, c'est un peu compliqué. C'est long, mais ça s'arrête lui aussi très très rapidement, dans les années au tout début 2010. C'est un artiste scénariste qui ne fait pas que du comics, qui commence en fait d'abord avec sa boîte de prod de bouquins de jeux de rôle qui s'appelle Palladium Books. En 81, donc avec un de ses amis qui fait ça. Et son rapport aux comics va arriver que deux ans après avec une série qui s'appelle Justice Machine chez Noble Comics, auquel il va aussi faire une série qui s'appelle Journeys et Adventures of Wolverine McAllister, qui est une série qui se passe dans le passé américain, blablabla. Enfin, pas le passé américain, je crois que c'est le passé canadien. Vu que c'est une série qui est éditée à la fois par Fantagraphics et un éditeur canadien à l'époque. Il va aussi connaître un certain Adam Kubert, où il va faire le scénar de Johnny Quest sur environ 3 numéros, donc pas grand chose. On va le voir aussi se faire connaître chez DC, notamment avec Dr. Fate, où il va travailler pendant 15 numéros. Bon, c'est à la même époque où justement il va commencer à travailler sur The Max avec Sam Kiet. Et on va le voir aussi dans les années 90 travailler sur les comic strips de Batman. Donc comic strip, si vous voyez pas ce que c'est les, on va dire c'est les histoires qui sortaient dans les journaux, on va dire. Et grosso modo, Batman est apparu visiblement dans les journaux à l'époque. Alors je savais ça pour, on va dire, bien avant, on va dire dans les années, je sais plus, je crois que c'était 60 parce que j'avais vu. Par contre, que c'était que dans les années 90, il y en avait toujours, ça m'étonne, mais bon, bref. et aussi, pardon, je vais aller un peu plus vite sur le reste, donc enfin sur le reste, alors que c'est le plus gros, on va dire, de sa série, c'est il va être dans les années en 92, il va être sur Wonder Woman, sur près de 40 numéros, et c'est d'ailleurs lui qui va créer le personnage d'Artemis. Il va aussi être sur pendant près de 20 numéros sur la série Hawkman. En 96, il vient un petit peu travailler sur du Thor, et en fait, à partir de 2005, on va apprendre, alors ça c'est plus pour l'anecdote, c'est qu'on va apprendre que, grosso modo, ça va très mal au niveau finance chez lui, que, en fait, il faut savoir que William Messner Lobbs n'a qu'une seule main, en fait, dû notamment alors, à un service, je crois que c'était à la guerre, je sais plus, c'est dû à un accident, on va dire, militaire. Il n'a plus qu'un bras, et en fait, ça le gêne grandement pour travailler, bah, notamment bah, parce qu'il est scénariste, mais aussi artiste. Et notamment avec sa femme aussi, qui venait de perdre sa maison, bah, du coup, ils sont vraiment dans une merde financière que Neil Adams et l'un de ses amis vont mettre en avant et faire une cagnotte pour essayer de les aider. Donc ça va aller un peu mieux dans les années suivantes, donc notamment c'est comme ça qu'il va pouvoir se remettre à travailler sur des séries, donc notamment Necronomicon et Zombie Tales. J'allais dire chez Avatar, non, pas du tout. Je crois que c'est chez Titan, si je dis pas de bêtises. Non, je pense que je dis gravement des bêtises. Chez Boom. Et bon, par la suite, il va aussi travailler chez DC sur des petits titres, c'est pas très intéressant. Et gros, en fait, la seule trace que j'ai, la plus récente de lui, c'est 2018, sur laquelle il va coécrire une série qui s'appelle Kiss, une série Kiss the End, qui est, comme son nom l'indique, une série. Rien qu'au nom, bon, je pense qu'on peut s'en passer, mais grosso modo, c'est une série voilà qui fait la part belle au groupe Kiss. Les séries qui sont souvent tirées, enfin, il y a beaucoup de séries qui sont tirées de personnages, de groupes de rock sont rarement intéressantes à lire, voire même jamais intéressantes, plus exactement.
Je rajouterais un truc, c'est que il a quand même signé un sacré run sur Flash, dont on avait parlé quand on avait parlé de Flash Chronicles de Mark Waid, en fait. Et là-dessus, il a participé grandement à la manière de forger le caractère de Wally et une situation familiale plus stable. Chose qu'on lui a également reproché parce qu'il y a eu un moment où il avait fait de Wally un sans-abri. Et donc c'est pour ça que quand tu parles justement de ces galères financières qui ont été assez, je vais pas dire médiatisées, mais dont on a tous entendu parler quand c'est arrivé, c'était en fait une triste ironie du sort, puisque beaucoup de fans lui reprochaient ce passage-là, qui trouvaient ridicule, mais qui en fait dans l'histoire ne l'était pas.
Oui, tant. Mais c'est ça. C'est, bah, après, les auteurs, enfin du coup scénaristes aussi comme dessinateurs mettent un peu une part d'eux-mêmes dans leurs comics. Donc ça arrive, ça ne m'étonne pas. Et puis bon, j'ai pas lu ce passage-là où il est à la rue, mais je suis désolé, mais t'as des personnes comme Frank Miller qui foutent Daredevil à la rue, et pourtant ça gêne personne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'était génial, hein. Donc je vois pas où est le souci, en fait.
Ouais,
mais bon.
Non, mais je suis d'accord. Après, c'est la manière de faire, et puis la couverture c'est surtout la couverture qui est un peu pitoyable. Mais bref. C'était dans les années fin 80, début 90. C'était une autre histoire.
Le Daredevil de Miller,
Est-ce que c'est pas un personnage qui s'y prêtait moins aussi?
Non, j'allais dire le Daredevil de Miller, c'est quand, mais ça doit être avant, ça doit être fin 80, non, je sais plus.
C'était à peu près dans les mêmes okay, années.
Bon. Bon, voilà. Déjà, ça, c'est pour les auteurs. Alors, j'ai à dire que William Messner-Lubbs ne fait pas The Max sur l'entièreté de la série. Alors, là, pour le coup, on est censé parler pour le troisième tome. Il est toujours là, mais il est... alors, je crois que sur les 35 numéros que compte la série principale, il est là sur... sur la, pas la totalité, mais je crois au moins les 20 premiers de mémoire. Voilà. Pour montrer justement que oui, effectivement, c'est pas forcément lui l'auteur principal de la série The Max. Et de toute façon, par exemple, quand on va avoir le The Max Batman, il y aura que Sam Keith aussi qui sera sur la série. Il y aura plus de William Lubbs. Donc voilà. Donc The Max, c'est quoi? et là déjà c'est un problème. ouais. Qu'est-ce que c'est The Max? Bon, déjà j'aimerais bien parler d'un truc, c'est que The Max, c'est vrai que avant de rentrer dedans, ce que j'aimerais juste dire, c'est que The Max aussi, ça a eu un gros problème. The Max, c'est une série qui est, avant de rentrer dans l'histoire même, j'aimerais bien parler un peu de l'histoire plutôt éditoriale de dire qu'en fait The Max, c'est une série qui est purement de son temps. Alors c'était une série qui a d'abord été chez Image, puis DC, qui a appartenu à DC Wildstorm, et puis maintenant, ce que je comprends, c'est que maintenant ça appartient à IDW. Donc bon, ok, très bien. Mais pourtant, dans son ADN, pur et dur, c'est du Image années 90, point barre. C'est sorti de façon en 93. Pour vous donner une idée, Image, ça a été fondé en 92. Oui, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'est grosso modo l'une des premières séries qui est sortie chez Image, tout simplement. Et en fait, même moi, comme à l'époque, quand je le regardais, pour moi, j'avais vraiment le côté bourru du personnage, et ça me rappelait fortement le Spawn. Ça sentait le Spawn, et à certains égards, et là on va se battre, mais c'était juste pour situer, pour moi, c'était vraiment un tremplin de Spawn. Là où Spawn, pour moi, dans les débuts, même si c'était une série qui était très bourrine, très très bourrine. Il y avait un questionnement qui se passait dans la série. Alors il n'était pas fou le questionnement dans Spawn, mais il y en avait quand même un que The Max lui a préféré garder et que je trouve un peu dommage. Et The Max c'est un peu le type de série que on a complètement zappé sur les débuts d'Image. Là où Spawn ça continue à continuer ainsi de suite. Et il y a aussi une autre série d'ailleurs qu'un jour j'aimerais bien qu'elle soit éditée en France totalement, point barre. C'est Concrète, et un jour peut-être qu'on en parlera, pour le moment non, mais tant pis, mais j'aimerais bien un jour faire un point pour parler de Concrète, ça m'énerve, notamment parce que je peux pas lire la série en entier, vu que même en France c'est un véritable bordel, et trouver des TP en anglais c'est une horreur aussi. Bref, The Max, c'est quoi? C'est très bizarre sur la manière de présenter. Grosso modo, on comprend très vite que un personnage qui s'appelle Monsieur Gone a kidnappé une fille qui s'appelle Julie, qui est une fille un peu blonde avec quelques formes. Et quand je dis des formes, c'est pas forcément forme sexuelle, c'est vraiment que bon, elle a un peu de ventre, elle a pas forcément les proportions toutes les femmes qu'on a dans les années 90, et je veux bien qu'on se rappelle qu'on est dans les années 90, donc voilà, c'est là où on a eu le plus de trucs un peu bizarres au niveau de la morphologie féminine.
C'est super
féminine.
Important par rapport à The Max, hein, c'est vraiment
important. Mais voilà, c'est vraiment...
Mais je crois qu'elle en parle directement dans un numéro.
Oui,
elle parle du fait qu'elle a une pose de pin-up un peu sur une page. Pour moi, c'était clairement...
Mais c'était une pause... Mais oui, il y avait ça. Et aussi le fait qu'elle parle de son corps en disant... Bon, bref, on entre... J'ai même pas encore présenté l'histoire.
Ouais, désolé, on est trop plus ça.
on y reviendra. Du coup, Julie, qui est voilà une fille blonde qui a l'air d'avoir un passif et qui se fait... qui se fait kidnapper par un certain personnage qui s'appelle Monsieur Gone, qui, on comprend très vite, est un violeur. Il a déjà fait plusieurs victimes. Et qui utilise une espèce d'armée de petits êtres noirs bizarres avec une gueule horrible, mais qui n'ont pas de yeux, on va dire. Et grosso modo, par la même occasion, on va suivre un personnage qui s'appelle The Max. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Qui est retrouvé dans la rue par les flics et qui va en fait comprendre très vite, comprendre très vite qu'il a un lien justement avec cette fille-là. Et ne pas savoir en fait qui il est lui-même en fait. Grosso modo, pour lui, la vie, elle a commencé dans la rue. Il se rappelle plus grand-chose depuis la rue. et il va commencer à rentrer dans une espèce de trip entre la réalité dégueulasse, je crois que c'est New York où ça commence la série, je suis plus sûr, et un autre monde qui s'appelle, qu'on va apprendre très vite, qui s'appelle Loudback, qui a l'air d'avoir une relation avec aussi le personnage de Monsieur Gon. Et le but de The Max, grosso modo, pendant le premier tome, ça va être de rejoindre Julie et la sauver de ce personnage qui s'appelle Monsieur Gon. C'est j'ai vraiment un mal fou à décrire l'histoire, parce qu'en fait le problème c'est que soit j'en parle trop, soit j'en parle pas assez. Mais grosso modo, le premier tome, sur la première partie du tome, va être vraiment centré sur la récupération de Julie et apprendre un peu plus de Julie, où on va apprendre très vite que Julie justement a un lourd passé, que tout ce qui est enfin justement la thématique du personnage de Monsieur Gon qui est un violeur va toucher directement Julie, que Julie finalement a une importance primordiale dans l'histoire et n'est pas juste un espèce de faire-valoir, comme l'histoire que je vous raconte est en train de se former, parce que purement le The Max qui va sauver la femme en détresse, non. il va y avoir une espèce d'alchimie entre les deux personnages qui va être assez particulier, où le The Max va être un espèce de petit de personnage qui a l'air, par son physique, d'être un gros abruti. Alors oui, c'est un gros abruti, pardon. Mais il n'est pas si gros bras que ça, et il est même un peu plus, on va dire, vide de sens, sans que Julie lui donne son propre sens, on va dire. Et c'est là qu'on va comprendre en fait qu'il y a un lien beaucoup plus fort entre les deux que simplement le fait que voilà, il a sauvé Monsieur Gunn. Et ça, on y reviendra justement en parlant peut-être de Loudback justement. Donc ça, c'est la première partie. Là, je suis sur le premier tome. Sur la deuxième partie du premier tome, on va aussi découvrir un autre personnage qui s'appelle Sarah, qui est une fille, on va dire, très dépressive. On apprend très vite que, enfin, même dès la première page où on la présente, qu'elle va raconter l'histoire de son père, qui, grosso modo, est un mec qui a pété un câble au boulot, qui a pris son fusil, qui s'est décidé de tuer tout le monde avant de se suicider. voilà. Bonjour.
Le fun.
Et, alors là, c'est le fun. Et grosso modo, elle vit avec. Enfin, elle déteste son père. Elle ne comprend pas du tout ce truc-là, parce que je crois qu'en plus, quand ça s'est passé, elle était très jeune. Et grosso modo, elle vit avec sa mère qui est tout le temps positive. Alors que, bordel, c'est quand même fou ce qui s'est passé. Et, voilà. Et grosso modo, on va comprendre que, bon, en fait, Julie s'occupe justement de ce genre d'enfants à problème. Elles ont l'air quand même d'avoir le même âge, mais de filles à problème. Et grosso modo, Julie, c'est vrai que je l'ai pas décrit, mais c'est aussi un personnage qui est un personnage très fort, pardon. Et du coup, qui veut justement aider ce genre de femme qui a des problèmes. Et notamment, qui va aider justement Sarah dans la deuxième partie du tome, qui est une dépressive, du coup, justement, dont je vous ai parlé. Et, grosso modo, ça va être, la série va tourner surtout autour de ces trois personnages. Le deuxième tome, je vais y passer plus vite. Grosso modo, c'est plus un road trip de Sam Kiet et William Loves sur plein de séries. sans déconner, ça va être des hommages à droite à gauche à des séries du type, je sais pas si c'est Looney Tunes, c'est autre, mais des séries de gags, des séries à la Calvin et Hobbes. des petits clins d'œil d'une autre série qui s'appelle Savage Dragon, si vous connaissez. Et l'histoire va bien évidemment continuer autour de tout ce foutoir, mais le deuxième tome est un peu plus une pause, on va dire, dans l'histoire qu'on retrouvera. Enfin, moi je trouve reprend beaucoup plus du poil de la bête sur le troisième. Avec un meilleur développement justement de Sarah, un meilleur développement aussi de Julie, de ses questionnements internes, quand même, parce que je veux pas non plus dire que le tome 2 est inutile, hein, ne le sapez pas, il est important à l'histoire. Et là où justement on est là pour présenter au départ le troisième tome est, on va dire, une coupure qui semble évidente dans l'histoire, où grosso modo on va plus apprendre, enfin au moment de cette histoire-là, on va savoir exactement c'est quoi la relation entre The Max et et j'allais dire Sarah, pardon, et Julie, et comprendre qu'en fait Julie va du coup essayer de faire une avancée dans sa vie et du coup de passer à autre chose. Là où ce n'est pas possible pour The Max, et ça on va y revenir je pense dans notre discussion, parce que je pense que en fait si on rentre pas dans du spoil, dans tous les cas je vais être méchant, mais vous n'allez jamais avoir envie de dire le titre, donc je pense que je vais jeter les pieds dans le plat et puis tant pis, merde. Grosso modo, comme j'en ai parlé au tout début, Julie a un passé lourd. Julie a subi un viol quand elle était jeune, et grosso modo c'est pour ça que elle, derrière ce trauma, a créé à la fois cette carapace mais aussi cette personnalité forte, où Julie justement est un personnage qui représente vraiment une reine de la jungle.
Oui, clairement.
Oui, alors pourquoi je dis ça, je le dis en rigolant, c'est que Lotback, c'est vrai que j'y suis venu très rapidement, mais c'est quand même un point central de l'histoire. C'est un foutoir. C'est un foutoir qui est tiré, on comprend très vite qu'il a un lien direct avec Julie. Et le foutoir, c'est Lotback. Et le foutoir fout le foutoir dans la tête de The Max, parce qu'on comprend qu'aussi The Max est tiré de Lotback. Donc je sais pas si vous savez faire des relations entre ce que je viens de dire, mais logiquement vous avez compris que The Max, bon voilà quoi. Il peut pas vivre tout seul quoi. Donc ce qui amène plus de sens au troisième tome.
Alors The Max, du coup c'est perché. Le troisième tome finalement, j'ai pas de mon côté réussi à le lire. Je me suis arrêté à l'équivalent du deuxième.
D'accord.
Donc pour ça que là, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas forcément en lien, et si jamais je dis une bêtise, hésite pas à me le dire.
Alors oui.
De ce que j'ai compris jusque là, c'est que The Max, c'est le produit de l'imagination de Julie, qui est en fait, et The Max est là pour écraser la peur et les souvenirs de ce traumatisme, ce premier antagoniste, qui est extrêmement flippant, serait une sorte de parole qui tente de dire qu'il ne faut pas au contraire enfermer le trauma, mais le réveiller pour vivre avec. Et donc finalement, cet antagoniste ultra creepy et complètement détestable, eh bien en fait, il apporte une vision des choses qui finalement n'est pas si mal, alors que ce qu'il va faire subir à Julie est affreux aussi. Mais
oui, voilà, et pas qu'à Julie, parce que c'est ça le point, c'est que Monsieur Gunn, au moment où il kidnappe Julie, il a déjà tué au moins 3 personnes, je crois, quelque chose comme ça.
Alors, c'est pour moi, c'est une grosse qualité du titre, c'est que les pires monstres que tu vas rencontrer dans cet univers, eh bien en fait, Sam Keyes va apporter de la nuance dans leur caractérisation. Alors, quand on dit que Lobbs est uniquement dialoguiste, c'est pas tout à fait vrai. En fait, Sam Keyes et Lobbs vont travailler de pair et vont adopter une sorte de méthode Marvel dans leur application. C'est-à-dire que Sam Keyes réalisait une sorte de prototype de la planche, la partager à Lobbs, qui va dire justement ce qu'il va pouvoir écrire, etc. Comment est-ce qu'ils vont concevoir le scénario. Et par la suite, Lobbs va confirmer qu'il peut écrire par-dessus. Et dans ce cas-là, Keyes va commencer l'ancrage. Et ils vont travailler comme ça, planche après planche. Ce qui fait que Sam Keyes va avoir la mainmise sur ce qui va être raconté, etc. Mais Lobbs va quand même apporter sa vision des choses sur cette création-là. Donc il va y servir de garde-fou à Sam Keyes, et donc Lobbs va être crédité uniquement en tant que dialoguiste, mais il va avoir un impact un peu plus important quand même. Par rapport à The Max, ce que je vais pouvoir dire par rapport à l'impact que The Max a sur la carrière de Sam Keyes, déjà c'est en gros son chef-d'œuvre. C'est ce pourquoi il est connu. Cependant, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est la somme d'une expérience de Sam Keyes, d'une haine aussi qu'il a pour les Big Two. Il va travailler chez Marvel, il va pas beaucoup apprécier son expérience là-bas. Il va surtout apprécier là-bas ce qu'il va pouvoir faire sur Wolverine, parce que ça va être un moment où il aura le temps d'être fier de son travail, de travailler plus longtemps. Et il va travailler sur Marvel Comics Presents parce que on lui demande moins de quantité, chose qu'il ne pouvait pas faire sur Sandman juste avant. C'est pour ça également qu'il va être soulagé de partir de Sandman parce qu'il a détesté cette période-là. Pour lui, Sandman, c'est une période où il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il n'avait pas le temps d'être fier de son travail. Il était constamment pressé et c'était un calvaire pour lui.
Mais j'ai l'impression que c'est pas que le fait qu'il soit pressé, mais c'est aussi le fait qu'il a besoin, je pense, dans son expérience, d'être le scénariste.
Alors, je suis pas c'est pas tout à fait faux par rapport à ce qui, par rapport à ce que je vois par rapport au crédit, mais c'est vrai que ça doit également jouer dans son sentiment de liberté. Mais par rapport à Sandman,
C'est la question que je me pose, parce que du coup, c'est vrai qu'on en a déjà parlé peut-être auparavant, mais t'as un peu la même chose avec, justement, comment elle s'appelle ? Oula, j'ai déjà un trou de mémoire qu'on a présenté il y a pas longtemps, Mademoiselle, sur It's Lonely.
Ah oui, Zoe Thorgood, ouais.
Zoe Thorgood, où elle dit dans son expérience qu'elle ne supportait pas d'avoir des scénaristes, en fait, et qu'elle a besoin de... et que c'est une expérience qu'elle apprécie pas, elle va avoir le contrôle sur tout ce qu'elle fait.
C'est probable aussi. Cependant, pour Sandman, ce qui l'embêtait surtout, c'était pas forcément l'histoire racontée, c'était vraiment la qualité de son travail. Et par exemple, sur Sandman, il espérait pouvoir faire de l'aquarelle et être plus précis dans son dessin, et en fait on lui disait que ça coûterait trop cher et que ce serait impossible à faire, quoi. Donc on lui disait constamment non dès qu'il voulait innover et faire des choses un peu plus abouties.
Ce qui est fou, parce que Sandman, par la suite, l'innovation, ce sera une obligation. Et d'ailleurs, l'histoire a prouvé qu'il avait raison, parce qu'en fait, la plupart des gens te disent que effectivement la première histoire de The Sandman est exceptionnelle, mais beaucoup de gens détestent le dessin. Ils détestent le dessin, ils trouvent ça trop vieux, ils disent en plus que c'est trop vieux, même ne serait-ce pour l'époque. Et c'est ça qui me chagrine un peu, parce que pour moi, ça reste quand même un dessin qui a un charme fou, je trouve. Mais vraiment, c'est beaucoup de gens qui n'apprécient pas ça.
Et donc, rien qu'en tant qu'encreur chez DC, il va prendre un gros coup au moral quand Roy Thomas va lui dire sur le seul numéro que Sam Keith va ancrer, qu'il devrait arrêter les comics et qu'il devrait se réorienter ailleurs parce qu'il fera jamais carrière. Donc là, Sam Keith va vraiment détester DC en règle générale. Ce qui va marquer...
Bah, Roy Thomas, c'était pas Marvel, hein?
Alors Roy Thomas était sur Infinity Inc. chez DC.
Ah d'accord, ok.
Alors pour ça, on va avoir plusieurs petits trucs qui sont méconnus chez Sam Keith. T'as parlé tout à l'heure du seul numéro qu'il va dessiner de Hulk, et en fait c'est un numéro où on va avoir, je sais pas si du coup tu l'as lu.
Pas du tout.
Alors moi du coup j'ai pas lu le tome 3 de Max, mais j'ai voulu creuser un petit peu les choses qu'on avait auparavant, et donc ce numéro de Hulk, en fait, on va avoir des pages qui sont magnifiques, où en gros Hulk va vraiment avoir un impact sur la case en elle-même, il va risquer de la casser par son poids et par sa force, et c'est vraiment colossal, tellement il va le représenter comme une bête, comme un monstre, enfin, vraiment comme une bête, et c'est comme ça qu'il va représenter The Max. Donc je pense que déjà sa représentation de Hulk va fortement impacter la manière dont il va représenter des héros, et surtout la force, la musculature démesurée et vraiment au bord d'une caricature, mais en même temps qui répond au code des années 90. Et à côté de ça, on va également avoir un petit comics qui s'appelle, je crois que c'est Critters, qui met en scène justement des petites bestioles qui ressemblent énormément aux bestioles qu'on va retrouver, qui sont censées représenter les traumatismes de Julie. Et pour ça, je trouve que c'est fou comment t'as l'impression qu'il a fait mûrir tout ça. Et on va avoir également, je crois que c'est Zen, un personnage qu'il va dessiner, par contre on a un personnage, mais je sais plus dans quelle publication c'était, en fait, qui ressemble énormément à ce que va devenir Max par la suite côté costume, juste qu'on aura un aspect légèrement plus humain dans sa représentation. Et donc pour ça, dans l'exercice de style qu'est The Max, je trouve ça incroyable, le sens qu'on donne et les sujets traités qui sont ultra tendus, et surtout la nuance qu'on parvient à apporter à tous ces personnages, que ce soit des personnages positifs, parce que même Julie, qui finalement est en position de victime, sur lequel on devrait s'apitoyer et à qui on devrait donner tout le temps raison, je pense, dans un comics qui sortirait actuellement de manière générale, et bien là, en fait, même elle, et bien en fait, elle peut être finalement dans un déni, avoir tort sur pas mal de sujets. Donc on est dans une sorte de questionnement constant, et on s'y perd. J'ai trouvé dans le deuxième volume, on finit par s'y perdre, ça devient très compliqué, tant il y a de nuances. Et pour moi, c'est pas tellement un défaut, c'est au contraire une qualité, parce que se perdre dans toutes ces réflexions complexes, bah moi, je trouve que ça apporte énormément de crédibilité et énormément d'humanité dans ce comics qui a une allure de comics pourri des années 90 parce que c'était vraiment le code d'Image de te montrer un héros ultra musclé et ultra violent. Et finalement, la violence, elle est pas tellement physique, visuelle, elle est vraiment morale, et je trouve que ça rend le tout tellement plus intéressant.
C'est clairement ça, et moi c'est comme ça que je l'avais abordé en fait, The Max. C'est que je m'attendais à un truc bourrin, bas du front et juste débile, mais un peu un titre dans l'esprit défouloir. Et en fait, on est sur un truc, mais qui est complètement l'opposé, en fin de compte. C'est un truc qui dit tellement de choses sur l'humain et sur le traitement du traumatisme et des émotions qui découlent d'événements comme ça. Et je m'attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Et je trouve ça super bien amené, comme t'as dit. Le fait que y ait cet aspect, bah, c'est pas vraiment un spoil, hein, mais c'est même évoqué très très tôt dans les volumes. C'est le côté de Julie qui est dans le déni par rapport à sa façon de vivre, le pourquoi elle fait les choses et comment elle réagit aux choses, comment elle gère les choses. Et même le métier qu'elle fait, le pourquoi elle le fait, le comment elle le fait, tout ça est pensé, réfléchi, expliqué pour te faire réfléchir à l'humain et sa gestion de d'événements traumatiques de ce genre-là. Et ça m'a pris totalement à contre-pied parce que je m'attendais pas à voir un truc pareil. Et c'est devenu passionnant jusqu'à ce que je commence à douter d'absolument tout, en fait, parce que la façon dont c'est amené, notamment l'outback, c'est tu passes d'un truc à l'autre sans réelle explication, sans réelle raison. Tu dis attends, mais est-ce que ça c'est vrai, est-ce que l'autre c'était vrai, est-ce que les deux sont vrais, est-ce qu'aucun n'est vrai. Tu commences à douter d'absolument tout parce que tout est assez chaotique dans la façon dont c'est amené, mais qui représente bien le chaos émotionnel du personnage principal.
Mais on se perd, de toute façon, même les personnages se perdent eux-mêmes, où ils vont se battre contre une nuée de petits monstres dans le bac, The Max et Julia, puis en fait attendre qu'ils se barrent pour voir qu'en fait ils ont attendu pendant près d'un quart d'heure sur une bouche d'incendie en plein milieu de la ville avec tout le monde qui les regarde.
Ouais.
Voilà, ce genre de truc. Mais c'est vraiment le truc du trauma. Et puis même, c'est pas que côté Julia, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Julia, mais même au niveau de Sarah, c'est un truc qui va revenir. Et Sarah, qu'on dessine un tout début du premier tome, va prendre beaucoup plus de sens dans le troisième, justement, où en fait, on va revoir Monsieur Gunn. Alors, il est devenu, on va dire, presque inoffensif, c'est-à-dire que c'est juste, on va dire, une tête. Et elle va enfin... Et en fait, Sarah n'avait jamais vu Monsieur Gunn jusqu'à maintenant, et en fait, il va débouler en plein milieu du salon, devant Julia, et elle va faire la remarque que... Mais attends, mais c'est mon père. Bref, alors ça, c'est un gros spoil que je vous donne, mais en fait, non. Parce que c'est là où, en fait, ça va remettre du truc sur l'imagination. C'est... En fait, c'est pas... C'est peut-être qu'il ressemblait... au premier, à celui qui a violé Julia, ou peut-être pas, c'est peut-être pas le père, c'est peut-être personne, en fait, c'est juste une représentation, en fait, peut-être que le père est toujours mort, et qu'en fait, non, ce n'est pas Monsieur Gunn n'est pas le père, c'est juste qu'en fait, il prend le personnage de Monsieur Gunn, et juste la représentation du trauma, tout simplement, et c'est, et pour les deux filles, en fait, les deux ont eu le trauma, et le trauma de Julia, qui est la mort de... Enfin, qui est la mort, pardon. Le trauma de Julia, qui est le viol. Le trauma de Sarah, ça va être son père. Et en fait, c'est vraiment... Ça va être les différents types de trauma. Et en fait, l'autre truc que je voulais mettre aussi en avant, c'est que du coup, pareil, le personnage de The Max n'a pas de véritable réalité. Et dans le troisième, on lui oblige à avoir une réalité, parce que notamment, il y a le côté du départ. Le départ, c'est-à-dire que Julia, je vais raconter un peu le début du tome, mais grosso modo, Julia dit que en fait c'est bon, il est temps qu'elle se casse et qu'elle passe à autre chose. Et The Max comprend qu'il y a un problème parce qu'en fait Lootback, il est à la fois lié à Julia, mais il est aussi lié à la ville. Et si Julia se casse, ben Lootback, il va vivre, mais sans raison de vivre en fait. Et lui aussi derrière. Et du coup, le tome 3, ça va être une espèce de débâcle du personnage qui va devenir violent parce qu'il sait qu'il va perdre la seule raison qu'il a de vivre. Et c'est assez particulier à suivre. Alors, ce que j'ai compris, c'est que l'histoire va prendre une autre tournure par la suite, après le tome 3, sur un autre des personnages dont j'ai déjà parlé. Mais rien que là, c'est déjà extrêmement osé d'avoir le personnage qui, au départ, tu pensais que c'était le personnage principal. Puis après, tu dis non, c'est peut-être que maintenant c'est Sarah qui zappe. Et du coup, bon, vous comprenez très bien que le personnage principal, c'est pas The Max. Bien qu'en fait les deux personnages principaux vont se casser de la ville. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va arriver au 15e numéro, la série en compte 35. Mais what the fuck? Et l'autre truc que je voulais mettre en relation, j'en ai parlé un petit peu au tout début, c'était Spawn. Alors pourquoi je vous parle de Spawn d'un coup? C'est quoi le rapport? Spawn, c'est de la violence et tout. Mais en fait, moi ce que je mets bien dans la série Spawn au tout début, c'est qu'il y avait un côté un peu cause. Alors, pour moi, la cause, c'était pas, ah, il revient des morts, enfin, si vous connaissez pas Spawn, mais grosso modo, personnage, il meurt à la guerre, il fait un pacte avec le diable pour revoir sa femme, et en fait, on le ramène à la vie, je crois, peut-être 4 ans après, ou 5 ans, et il découvre que sa femme s'est remariée avec un autre mec, qu'il a eu un enfant avec, et en plus, ce gars-là est aussi son meilleur ami, soi-disant passant. Et lui, en fait, est revenu à la vie, mais tel qu'il est dans son cimetière, dans son cercueil, c'est-à-dire un cadavre putréfiant, et qui va devoir vivre avec les clodos du coin, parce qu'il pue tellement qu'il y a que les clodos qui le supportent. Et ce que j'aimais bien dans la série de Spawn au tout début, c'était le côté où on présentait justement les clodos de manière sympathique, manière où en fait tu sentais qu'ils avaient, mais c'était vraiment les reclus et qu'ils avaient un problème, mais le problème c'était la société eux-même qui leur donnait en fait. Et qui n'apparaît plus dans Spawn, ce que je trouve totalement naze. Voilà, merci. Pour moi, c'était vraiment un des trucs de cause qu'aurait pu garder la série qui ne l'a pas fait. C'était dommage, c'est con. Désolé, Tac McFarlane, mais voilà, c'est débile. Et du coup, en fait, The Max, lui, par contre, il y a aussi ce petit côté-là. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais les personnages, ils sont vraiment pauvres. Je veux dire, comment dire, Julia, elle se balade littéralement pieds nus dans la rue avec un t-shirt troué, alors des fringues un peu déchirées. Alors oui, je sais, il y a le côté un peu années 90 où tout le monde aimait, c'était un peu la mode des trucs déchirés, mais quand même se balader des pieds nus dans la rue, merci. Où on comprend qu'en fait, bah, les personnages, ils sont un peu, ouais, ils ont pas trop de fric, et même The Max, bah, de toute façon, il vit dans la rue, en fait, avant d'être avec Julia, il vit dans la rue, même la plupart de 100 ans, il est entre deux poubelles. Il y a l'identité, image, alors, l'identité image, c'est les poubelles, merci. Ce truc-là, en fait, j'aimerais bien, voilà, j'ai quand même envie d'en parler un petit peu, parce que c'est vraiment un truc qui est pas trop mis en avant. Il y a un côté un peu plus sale dans le titre. Et quand je parle de sale, c'est pas que parce qu'il y a Monsieur Gone qui est un tueur-violeur, c'est vraiment la ville en elle-même est sale, et Lootback est en fait un peu particulier dans le sens où c'est à la fois une savane vide, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on l'a pas décrit, mais grosso modo, Lootback, c'est un ciel blanc avec des monstres qui passent un peu bizarres, tout petits, mais qui sont pas si effrayants que ça, et de l'herbe à perte de vue, et voilà, c'est tout. Donc un petit côté un peu apaisant, on va dire, par rapport au reste de la ville, où la ville, on dirait, en fait, à contrario, est beaucoup plus sale, on va dire, et beaucoup plus, semble beaucoup plus dangereuse, la réalité semble beaucoup plus dangereuse que Lootback au final. Là où, au tout début, les premières relations à Lootback, ou qui est à la fois l'irréel, ben, sont plus apaisantes. Donc en fait, ça rajoute aussi, d'ailleurs, dans la psyché à la fois de Julia, et peut-être de Sarah, vu qu'en fait on commence à un peu plus connaître Sarah dans la deuxième partie. Mais le fait que en fait c'est un coin justement de pour se protéger en fait du danger qui est le monde réel, quoi.
Il y a un rapport clairement avec tous les personnages. Il y a un rapport bizarre à la réalité en fait. Pour prendre un exemple tout bête, c'est le personnage secondaire totale, la mère, même tertiaire, même tout ce que vous voulez, la mère de Sarah, qui est dans un des dénis les plus fous de... qui vit comme si de rien n'était, alors que sa fille est au bout de sa vie, et elle qui reste dans ses délires un peu... elle est un peu hippie dans l'esprit, on dirait. Mais oui, il y a chaque personnage dans ce titre a un rapport bizarre avec la réalité. Il y a même un peu plus concret, peut-être un qui se rapproche un peu plus du... Enfin, son esprit un peu plus du monde réel. Il y a dans le troisième tome un petit qui veut se rappeler de, qui veut se rapprocher de Monsieur Gone pour qu'il lui apprenne des trucs. Et au final, le numéro se termine de façon assez surprenante. Je m'attendais pas à ça. Mais oui, en fait, chaque personnage a un problème avec le monde dans lequel il vit. Et c'est difficile de passer à côté de ce propos-là.
Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de lire la suite, parce que c'est une série qui a l'air d'être complètement dingue. Dingue, mais avec beaucoup de sens. J'aime beaucoup ce titre-là. Et en fait, c'est ce qui me donne encore plus envie. C'était vraiment la période de Image qui était assez particulière. C'est-à-dire qu'en fait, on était vraiment dans une période où... où en fait Image se créait, mais on avait l'impression que les débuts d'Image, en fait, c'était que des pseudo personnages de Marvel et DC, mais version plus bourrine. On avait un Spawn, on avait The Max, on avait on avait d'autres séries, on avait j'ai plus les séries d'Image à l'époque.
Alors, en fait, c'est que à l'origine, on avait
Savage Dragon.
Voilà, pardon. On avait Savage Dragon, on
Witchblade,
avait
Witchblade.
Enfin, voilà, ça arrive un peu après. Mais à l'origine, on avait du coup Wildcat, Cyberforce, etc. Spawn. Là, on est sur The Max. C'est la deuxième série de titres de chez Image qui était censée alimenter cet univers super-héroïque. À l'origine, du coup, on avait là sur cette série, sur cette seconde vague là. Pete de Dalkeon, par exemple, qui va avoir un crossover avec The Max. Le problème, c'est que Sam Kiss, il est pas intéressé par tout ça. Donc The Max va avoir des crossovers, par exemple avec Gen 13, mais un crossover qui sera d'ailleurs scénarisé par Lobs. Et Sam Kiss n'aura rien à voir avec ces crossovers-là. Lui va gérer uniquement ce qui se passe dans The Max, et c'est tout ce qui l'intéresse. Il aura juste saisi l'opportunité qui lui sera offerte, puisque on lui demandera s'il veut créer quelque chose en indépendant, et il va saisir cette opportunité-là pour réaliser l'œuvre, en fait, qu'il va maîtriser de bout en bout.
Mais du coup, c'était grosso modo des séries très très adolescentes, on va dire. Très bigarrée, j'ai envie de dire, mais très violente. Je disais dans le deuxième tome avec Savage Dragon, mais du coup c'est vrai, les crossovers, effectivement, ça c'est. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que toute cette équipe-là se casse de Marvel et DC pour aller faire presque la même chose, mais avec plus de sang et de sexe dedans. C'est pas ça la liberté, quoi. C'est pas que ça, il y a un sens. Et du coup, en fait. Sam Kiet et William Lobs ont compris ça. Enfin, du coup, surtout Sam Kiet a surtout compris ça, et c'est ça qui sort du lot. En fait, c'est vraiment le personnage est une caricature de l'image des années 90. Et franchement, ne vous arrêtez pas à son design. Ça n'a aucun putain de rapport avec toutes les autres séries. Et je dirais quand même aussi, pardon, de rendre à César mais grosso modo, il y a aussi The Concrete, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui elle aussi est une série qui sortait du lot dès le début et qui est dans les premières séries d'Image. Et grosso modo, voilà, c'est vraiment une série qui bizarrement est complètement effacée dans l'idée de tout le monde, alors que c'était vraiment une des premières séries d'Image qui avait l'indépendance d'Image qu'on ne connaîtra que des années après. Après, il faut quand même se dire que voilà, en fait, c'est vrai que quand on y repense, la série qu'il y a eu avec MTV, que je n'ai pas vue, mais que j'ai maintenant très envie de regarder, je suis très curieux de savoir comment on peut animer ça. Il y a ce côté vraiment très underground, très très bizarre dans le design que la marque d'MTV que MTV avait à l'époque. Oui, parce que maintenant MTV.
Ouais, c'est très pop.
Alors, il y en a qui critiquent déjà un peu. Je sais que la plupart des gens, quand on leur parlait à MTV, peut-être qu'ils se rappelaient, alors je sais plus si c'était chez eux, c'était quoi, Pimp My Ride, c'était pas chez eux.
Si.
Ouais, voilà. Mais en fait, je veux pas être méchant, mais Pimp My Ride, ça a beau être bien, c'était on était déjà sorti de la phase de MTV qui était intéressante. Voilà. Je suis désolé.
Non, mais en fait, c'est la phase sympa d'MTV, c'était la part un peu amateur. Et The Max, alors, son adaptation, elle est ultra fidèle aux comics. Le reproche qu'on peut faire, c'est que c'est sorti, on va dire, en même temps que, ou du moins pas longtemps avant, l'adaptation de Spawn. Et l'adaptation de Spawn, elle a très bien vieilli, elle a une animation super fluide et de qualité. Là où celle de The Max, elle a une adaptation qui respecte le design de Sam Kiss, elle respecte l'histoire de Sam Kiss, mais l'animation, c'est limite du motion comics, en fait. Et c'est ça le souci. Mais le souci est vraiment, pour moi, minime, puisque pour une série et un récit qui se veut, je vais pas dire contemplatif, mais introspectif, ça fonctionne. Disons que c'est pas la série qui va vraiment t'attraper par la main et te dire viens, je vais te faire découvrir un univers et je vais t'expliquer quelques petits messages. Non, ça, c'est, en fait, la série, elle est comme le comics. Elle te demande de faire pas mal d'efforts pour réussir à comprendre l'univers dans lequel on te plonge et te faire perdre tes repères, hein, parce que c'est clairement une histoire qui est là pour et ça, apparemment, ça a très bien marché sur Nightwing, comme ça avait très bien marché sur moi la première fois. Moi, alors encore, Nightwing, je trouve que tu t'en sors bien, parce que moi, la première fois, j'avais vraiment rien compris, j'ai lâché l'affaire, une erreur que j'ai répétée, et ouais, là, en fait, vraiment, j'arrive à bien cerner la chose et me dire ok, en gros, là, Sam Kiss me donne une manière de voir le monde et comme quelqu'un qui a des vrais problèmes psy et qui se perd entre deux réalités, et cette confusion, elle est enivrante et déstabilisante, et je trouve ça incroyable. C'est une chance qu'on ait une réédition là en VF. Sachez qu'en VO, c'est une galère à trouver. Profitez-en, parce que je vois déjà certaines personnes lâcher l'affaire, revendre leur premier volume. Et si vous voulez vraiment avoir une collection avec les must-have de l'histoire du comics, The Max, ça en fait partie, même si ça fait partie de ces titres dont vous entendrez pas souvent parler, parce que c'est justement assez peu connu aux États-Unis et encore moins en France. Je veux dire, c'est l'image même de Sam Kiss, qui est un artiste qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Et c'est justement ça. Donc vraiment, profitez-en, ne suivez pas un peu ce mouvement de vous écarter de ces titres qui demandent un effort. C'est des titres qui, même si vous ne l'appréciez pas tout de suite, vous l'apprécierez plus tard en réussissant au bout d'un moment à faire l'effort et à être sensible au message qui est partagé là.
Mais en plus, c'est un titre qui est dans l'air du temps. J'en parlais avec Baptiste et Nightwing juste avant de lancer le podcast, mais c'est vraiment un titre qui est dans l'air du temps. Les thématiques du viol, les thématiques du trauma, ce genre de choses, mais aussi les thématiques féministes, c'est-à-dire que le titre n'hésite pas à utiliser le terme et à parler justement de femmes fortes qui essaient de passer au travers. Ce truc-là, il n'y a pas plus... un titre dans l'air du temps, il faut le lire, voilà.
Alors, je vous le dis, c'est pas juste dans l'air du temps, parce que tu vois, quand on dit ça, j'ai l'impression que les gens vont s'attendre à un titre qui se dit oui, voilà, je suis féministe et donc je suis une femme forte et voilà. Bref, les choses qu'on reproche aujourd'hui à des titres qui ont pourtant des bonnes intentions, là, The Max, je trouve ça incroyable. C'est que il va t'opposer, avec un propos nuancé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des propos extrêmes d'un côté et de l'autre. Il va vraiment choquer pour désamorcer avec un propos de l'autre extrême, et ensuite, mais tu vas voir que les deux parties en prennent plein la tronche, puis finalement, en opposant ces deux parties qui en prennent plein la tronche, eh bien, le véritable message, il arrive naturellement à toi. Et c'est là que on a un traitement pertinent des choses, où on n'a pas juste un personnage tout beau, tout propre, qui vient te montrer l'exemple de l'exemple absolument parfait et vers lequel il faut se diriger. C'est pas une propagande. C'est un titre.
Non, c'est pas une propagande, mais c'est un titre qui donne la réflexion.
Ouais, c'est exact. Ça ce que j'allais dire. Il te fait réfléchir.
Ouais, c'est ça. Si vous prenez pas le temps de vous attarder, vous allez effectivement passer au travers, et c'est ça qui, ça ce serait un peu dommage. Mais en fait, il suffit juste de prendre 2 secondes à réflexion, et c'est un message qui reste quand même assez limpide, en fait. Mmh. C'est enfin voilà.
Et on terminera peut-être sur un truc, je sais plus si on l'a déjà dit, mais c'est que Sam Keith, c'est pas juste un dessinateur qui est caricatural, il s'est plongé dans la caricature à un moment donné, mais il a des inspirations très prononcées et il est capable d'un dessin extrêmement précis. C'est pour ça par exemple qu'il refusera de dessiner une série régulière sur Freddy Krueger, parce que il trouve que pour bien réaliser ce type de série, eh bien en fait ça va lui demander un temps fou. Mais voilà, il a comme inspiration Frazetta, Winsor Smith, et à côté de ça, tu vois qu'il y a également une influence, on va dire plus cartoon. Mais ça, je crois que t'en avais parlé, Balmung, tout à l'heure.
Ah ben là pour le coup c'est plus sur le deuxième tome où il s'amuse plus avec le côté cartoon. Mais là c'est un tome, comme pour rappel, hein, le deuxième tome c'est là où il fait le crossover avec Savage Dragon qui essaie tant bien que mal de garder dans l'esprit du titre, et aussi là où il s'amuse à faire des références à plusieurs titres, donc notamment justement ces trucs un peu cartoon. Il y a même une planche, c'est vrai que j'y pensais plus, mais du coup tu m'as dit Frazetta et c'est Frazetta carrément. Parce qu'on voit la reine de la jungle dessinée telle qu'un Frazetta l'aurait fait, avec la peinture et autres, où tu vois qu'il a un travail de dingue dessus. C'est vrai que merci d'avoir dit le terme, parce que c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe, en fait.
Y a pas de souci.
Y a un vrai dessin de Frazetta dans le deuxième tome. Je vous laisserai feuilleter et essayer de me retrouver la planche. Vous avez 2 heures. Et du coup, dans Sinon aussi, il y a du Calvin et Hobbes, pardon, et de reprendre un peu les styles d'autres, juste pour s'amuser, mais aussi pour jouer avec le reste de l'histoire dans l'espèce de psychose totale.
Ok, bah du coup je pense qu'on a très bien fait le tour de The Max. Je suis bien content qu'on ait à la fois le retour un peu un peu éperdu de Nightwing, un peu j'ai l'impression que tu découvres aussi Balmung.
Mais The Max, avant d'acheter les tomes chez les éditions Réflexion, je n'avais jamais lu, je l'avais jamais lu en fait. En fait c'était l'un des titres que je voulais lire depuis longtemps, mais que je pouvais pas mettre la main dessus, parce que moi je te rappelle que je suis pas un lecteur sur internet habituellement, je supporte pas de lire là-dessus, et c'est pas pareil concrète que j'ai envie de lire. Là j'ai que les 2 tomes qui sont sortis en France, il y en a je crois au moins 6 ou 7, et dont les 2 tomes qui sont sortis en France, ça doit représenter la deuxième série qui doit être du coup le tome 3 et 4, un truc comme ça je crois de mémoire.
Alors là je saurais pas vraiment te le dire, mais apparemment Réflexion ne va pas publier toute la série, elle va s'arrêter à mon avis au numéro 20, qui va en gros compléter la partie de Lobs, et je sais pas s'ils relanceront une seconde série pour la suite.
Franchement, ils ont l'habitude de sortir des tomes où tu te dis bon c'est un peu dommage, ils pourraient sortir une plus forte pagination, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé d'édition Réflexion avant maintenant. Ça reste quand même un tout petit éditeur, la plupart des tomes sont en des petits formats, c'est ça qui est un peu dommage. Il y a beaucoup de gens du coup qui passent au travers, il y a quand même quelques titres qui sont très bien. Là par exemple ils éditent Cyberforce, je suis pas très fanat du format, sachant qu'en fait en VO en même temps on nous sort des tomes obèses pour seulement 30 balles, des tomes qui doivent faire près de 400 pages, alors du coup quand tu vois le tome qui arrive de 110 pages, tu dis bon ça fait un peu chier. Bon, il y a quelques trucs qui allaient pas. Bon, Édition Réflexion, pour donner une idée, hein, je les connais depuis très longtemps. Au tout début, ils faisaient pas de hardcover, ils faisaient du soft. Et en plus, ils faisaient des titres horribles qui s'appelaient les French Crow, et jamais je leur pardonnerai. Je suis désolé. S'il y a l'éditeur, je te le dis maintenant, j'ai pas du tout aimé. Par contre, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils ont fait après. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Mais donc notamment aussi, j'ai oublié le nom, c'est Smart Girl, qui est aussi un bon titre qui est chez eux, si vous avez l'occasion. Enfin, c'est un titre, ça reste très sympa. Mais ils essayent... On voit que depuis les dernières années, ils essaient vraiment de sortir leur épingle du jeu beaucoup plus qu'avant. Et de s'y mettre beaucoup plus sérieusement. Et c'est un point, il faut pas passer au travers. Si vous avez l'occasion d'aller regarder un peu leur catalogue, ça vaut le coup.
Voilà. Et donc, ils s'occupent de titres qui sont assez peu connus, mais c'est pas pour autant qu'ils méritent pas votre intérêt. Et pour ça, The Max, profitez de cette réédition. Il y en aura pas souvent, que ce soit en V ou en VF. D'ailleurs, les éditions Réflexion, comme tu disais, hein, c'est un petit éditeur. C'est pas forcément des albums que vous allez trouver directement en grande surface. ni même spécialement en librairie spécialisée, qui les auront pas forcément, et s'ils les ont, pas forcément en grand nombre non plus. Donc n'hésitez pas à les commander, que ce soit à votre boutique ou via internet.
Via leur site.
Via leur site, exact. Mais du coup, le tome 3 sort, est sorti normalement. Il a été décalé. Il sort quand
le tome 3 est déjà sorti. Il est sorti il y a 2 semaines. Même plus, ouais.
Ok, c'est bien ça. J'ai pas forcément la bonne date. En fait, on a décalé justement ce podcast parce que les dates avaient changé. Donc, en tout cas, là, sous les yeux, j'ai le 8 mars 2024. Le tome 3 est sorti pour 16,50€ et pour un total de 104 pages. Je sais que c'est pas forcément ultra avantageux, mais ça reste du hardcover chez un petit éditeur et pour un récit que vous n'aurez pas forcément dans une autre édition, que ce soit, je répète,
en VF. Je précise que le 4, ouais. Ils ont déjà prévu de le sortir, là. Il y a déjà des visuels sur leur site. Ouais. Donc, c'est juste pour dire, ils sont pas prêts de s'arrêter, là.
Ils sont pas prêts de s'arrêter, mais ce que je vois ici, c'est que le 4 serait peut-être la fin de la série qu'ils ont fait. Ça reste hypothétique, à voir s'ils vont persévérer, mais là de mon côté je vois 4/4. Le tome 4 sort le 24 mai, donc ça va pas tarder pour compléter cette collection qui a vraiment qui mérite d'être faite. J'espère qu'en tout cas ça vous aura donné envie de le lire, parce que je le répète, ça mérite vraiment d'être découvert. C'est un comics comme aucun autre, et ça mérite vraiment son titre de récit culte. Voilà pour ce podcast. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert, que ce soit The Max ou même Sam Kiss, en fait. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast sur une équipe familiale, avec un omnibus qui a été déjà reporté à 2 reprises par Panini Comics, les 4 Fantastiques de Jonathan Hickman. On va revenir sur ce run culte des 4F, et ça promet déjà d'être très 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 sympa. Voilà, à la semaine prochaine, salut tout le monde.
Ciao.
Salut.